Voilà, bonjour à chacun de vous. Je vous propose sans tarder de faire une lecture assez courte dans l'évangile de Luc. Voilà, je vous propose la lecture d'un texte, nous en lirons d'autres. Mais ce texte se situe dans l'évangile de Luc, donc au chapitre 14, et à partir du verset 1er. Évangile de Luc, chapitre 14, et au verset 1er. Voilà, nous lisons ceci. « Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. » Et puis, nous lisons à partir du verset 15 maintenant. À partir du verset 15, « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. » À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Voilà, nous arrêtons ici notre lecture. Cette scène se déroule donc au cours d'un repas auquel le Christ a participé. Il s'agissait d'un repas organisé chez un homme religieux. Nous voyons dans cette participation du Christ à ce repas au moins deux choses. La première, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, lors des jours où il était présent comme un homme, comme un simple homme, au milieu des autres hommes, n'a pas refusé de participer au moment de réjouissance légitime à un repas, par exemple, lorsqu'il a été invité. Ce n'est pas la seule occasion dans les évangiles. Eh bien, le Seigneur n'a pas refusé d'y participer. Il a pris part à ce repas qui avait été organisé. Il a su prendre part au moment simple de la vie. Et puis, ce que nous remarquons aussi, c'est que dans ces moments, le Seigneur a su tirer profit des occasions qui lui étaient offertes pour adresser une parole à ceux qui se trouvaient avec lui, une parole destinée à leur communiquer quelques grâces. Et comme ici, eh bien, il a souvent parlé de manière imagée, sous forme de ce qu'on appelle les paraboles, c'est-à-dire qu'il nous fait comprendre certaines grandes réalités spirituelles sous la forme d'images plus ou moins simples, parfois elles le sont, parfois on s'aperçoit que ces auditeurs ont plus de difficultés à comprendre. Quoi qu'il en soit, le Seigneur ici nous parle de l'invitation que Dieu nous adresse. Là, il se saisit de l'occasion que lui donnait sa présence au milieu d'un banquet, d'un repas, alors que l'un des convives prend la parole et lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Et aussitôt, le Seigneur Jésus-Christ va rebondir sur cette image, en quelque sorte, et comparer l'invitation que Dieu nous adresse à celle qu'un homme pourrait nous adresser après avoir organisé dans les moindres détails ce qui est nécessaire pour nous recevoir à un grand souper, un grand repas où des mets délicieux, succulents vont nous être servis. Venez, car tout est déjà prêt. J'aimerais vous parler cet après-midi de quelques-unes des invitations de Dieu. En réalité, il n'y en a qu'une, c'est par l'Évangile qui nous adresse la plus belle des invitations, celle à recevoir de sa part la vie éternelle. Mais c'est vrai que dans l'Écriture, à plusieurs reprises, Dieu, de diverses manières, va détailler cette invitation qu'il nous adresse. Il nous la présente de diverses façons, et c'est ce que j'aimerais que nous découvrions ensemble. Alors, si vous le voulez, on va tout de suite se tourner vers un texte de l'Ancien Testament. C'est le texte que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe. Voilà, le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55, et je vous invite à faire une lecture à partir du verset 1er. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 1er. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 1er. Voilà, nous lisons ici cette invitation. « Vous tous qui avez soif, « venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Voilà, c'est une première invitation que Dieu a adressée. à l'époque à Israël, puisque c'est à Israël que Dieu s'adressait par la bouche du prophète Ésaïe. Or, cette invitation est adressée à Israël alors que ce peuple vient de subir un temps difficile. Voyez, Israël a été frappé par le jugement dans ces chapitres. Notamment, cette magnifique ville de Jérusalem a été livrée au siège. Elle a été livrée aux mains de ses adversaires, de ses ennemis. Et au moment où elle se trouve là, au comble de la désolation, du malheur, eh bien, le prophète Ésaïe va faire entendre ses paroles. Ce sont des paroles de consolation. C'est Dieu qui a livré Israël. C'est Dieu qui a livré Jérusalem à ce jugement. Mais, voyez, Dieu ne prend pas plaisir humilier les enfants des hommes, c'est ce qui est écrit. Et il va lui adresser toutes sortes de paroles de consolation, dont celle-ci, « Venez, venez vous qui avez soif, venez, même celui qui n'a pas d'argent, achetez et mangez, sans rien payer, délectez-vous de mes mets succulents. » Alors c'est une parole de consolation, elle est destinée à faire apparaître devant Israël, dans son humiliation, un brillant avenir, et voyez, Dieu veut nous donner un avenir glorieux. Et ces hommes et ces femmes qui entendent les paroles du prophète sont sans doute, à cause du châtiment auquel ils ont été soumis, bien humiliés. Ils ont connu la souffrance, certains ont peut-être connu le deuil. Et oui, cette parole de Dieu était destinée à leur donner une espérance, à les amener à lever les yeux vers un temps de délivrance. Même si la parole d'Ésaïe s'adresse à Israël, on comprend que l'Écriture s'adresse à nous. Vous voyez, à travers cette image de Jérusalem, humilié, livré à ses ennemis, Israël, livré au châtiment, c'est à l'humanité souffrante que Dieu s'adresse. Humanité qui est là sous le coup du jugement qui pèse sur elle à cause de son péché. Vous voyez, à cause de sa transgression, de sa désobéissance à la loi de Dieu. Vous savez, même si nous avons un cœur honnête, on peut regarder l'état du monde et on ne peut pas expliquer. Vous voyez qu'il s'y perpètre, qu'il s'y commette ce qui s'y commet, si on n'admet pas que quelque chose a été brisé, rompu dans notre communion avec notre Créateur, et que d'une certaine manière, l'état du monde est une conséquence de la transgression de l'homme, de la sainte loi de Dieu et du jugement que Dieu est obligé, contraint d'exercer sur elle. L'auteur Victor Hugo disait « On ne peut pas comprendre la condition de l'homme si on n'admet pas qu'il se trouve sous le coup de quelque malédiction. » Le coup de quelques châtiments, c'est dans les Misérables. Alors oui, nous sommes sous ce jugement, mais Dieu nous adresse une parole, il nous adresse, comme ici, une parole d'espérance, et cette parole, elle revêt la forme d'une invitation. Vous voyez, que celui qui a soif vienne, c'est une invitation à manger, de l'eau, du pain, il est question de manger, certaines versions parlent de pain, ce sont les éléments les plus simples. Dieu désire nous donner ce qui est nécessaire, non pas premièrement à notre corps, mais à notre âme. Parce qu'on le comprend, dans cette invitation, Dieu n'invitait pas les gens à manger, à boire de l'eau, mais il fait resplendir l'idée d'un avenir glorieux pour leur âme. Et puis, ce sont des mets plus succulents encore. Il est question de vin et de lait, de choses excellentes. Il est question de manger ce qui est bon, de mets succulents. Et je vous assure que lorsque nous venons à Dieu, l'homme retrouve sa dignité d'humilié qu'il était, de sa condition de condamné. Bien, non seulement il reçoit de la part de Dieu le pardon, mais encore la connaissance de ce qui est excellent. Vous voyez, des mets succulents pour notre âme, pour notre cœur, nous trouvant dans la communion de notre Créateur ce pourquoi il nous a conçus, ce pourquoi il nous a appelés. Vous voyez, il y a l'espérance de la vie éternelle, la délivrance du jugement, et dès à présent, connaître Dieu, c'est quelque chose d'excellent. Notre cœur, il trouve sa satisfaction. Et Dieu donne une explication, vous voyez, il est question de traiter avec Israël, là, une alliance éternelle. Il dit qu'il va rendre durable ses faveurs envers David. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, il faut savoir, et les auditeurs de cette prophétie l'ont immédiatement identifié et compris, que Dieu avait traité une alliance avec le roi David, à qui il avait promis de donner une postérité à laquelle il confierait un règne éternel. Et vous voyez, cette postérité de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est né de la postérité de David. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et par lui, il nous appelle, qui que nous soyons, il veut nous donner un avenir, une espérance. Si nous sommes humiliés, si nous avons connu, je ne sais pas moi, le jugement de Dieu d'une manière ou d'une autre, de manière juste, bien, cet après-midi, venez à Jésus-Christ pour recevoir son pardon, pour que votre âme se nourrisse de ce qui est excellent. Puis, voilà, c'est une première invitation que nous découvrons. Je vous invite à en découvrir une autre, c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 9. Proverbes, chapitre 9, à partir du verset 1er. Le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 1er. Voilà, c'est de manière imagée, ici encore, que Dieu s'adresse à nous en disant ceci. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Voilà, c'est une manière imagée, donc, que nous le disions, que Dieu s'adresse à nous. Il nous parle, c'est la sagesse de Dieu personnifiée qui s'exprime dans ce chapitre. On comprend que c'est Dieu qui nous parle pour nous rendre sages. Et la sagesse, dans ce passage, a bâti, n'est-ce pas, a égorgé ses victimes, c'est-à-dire qu'elle a apprêté un repas avec des viandes excellentes, elle a mêlé son vin et dressé sa table, et voilà qu'elle nous appelle, elle nous envoie des messagers pour nous appeler, pour nous convier à ce repas. Alors les termes de l'invitation peuvent sembler surprenants, puisque la sagesse de Dieu a chargé ses messagers de dire que celui qui est stupide entre ici. Et j'ai toujours imaginé, si vous remettez un écriteau à l'entrée de cette salle, avec ces paroles de l'écriture, que celui qui est stupide entre ici. Je ne sais pas si on aurait grand monde. Mais, voyez, derrière ces paroles, il y a quelque chose de très important. Dieu, lorsqu'il nous appelle, eh bien, il nous appelle pour nous faire prendre conscience que sans lui, nous manquons du bon sens nécessaire pour nous diriger dans la vie. Vous voyez, parfois, ce sont les épreuves de la vie. On a parlé de ce jugement qui avait frappé Israël. Mais des hommes et des femmes, parfois au prix de bien des souffrances, il faut parfois ça pour que le corps humain, dans son orgueil, ouvre les yeux, eh bien, prenne conscience que leur manière de se comporter, leurs agissements, je ne sais pas, moi, dans leur famille, au travail, ont eu des conséquences pour eux-mêmes, pour les leurs, parfois leur époux, parfois leurs enfants, qui ont été dramatiques. Parce que le péché, la transgression de la loi de Dieu, elle n'apporte jamais rien de bon. Et ça nous amène, si nous avons le cœur honnête, quand l'Esprit de Dieu agit dans notre conscience, à nous amener, à nous tourner vers Dieu et de lui dire, Seigneur, j'ai été un insensé. J'ai été stupide dans mes décisions, dans les choix que j'ai pris, dans les décisions que j'ai prises, dans la manière dont je me suis comporté. Et je le reconnais. Et à partir du moment où nous le reconnaissons, bien, que fait Dieu? Il ne nous repousse pas d'un revers de main, mais voyez, nous entendons son appel s'adresser à nous. Il nous invite, il vous invite cet après-midi à recevoir sa grâce, à recevoir des choses excellentes, que celui qui est stupide entre ici, non pas pour y être réprimandé sévèrement, mais pour goûter d'excellentes choses. Ces mets succulents que Dieu a préparés pour nous sont les mêmes que ceux qui sont décrits dans le livre du prophète Ésaïe. C'est son pardon, c'est sa grâce, c'est son action au-dedans de notre cœur et de notre vie, pour nous restaurer, voyez, cette sagesse et cette bonté auxquelles nous avions renoncé. Alors c'est d'autant plus important, ça, prendre le temps de le lire, que pour ceux qui n'entendent pas cet appel, pour ceux qui le rejettent, car Dieu nous laisse libres d'accepter ou non l'invitation qu'il nous adresse, bien, il y a une autre alternative. Regardez avec moi au verset 13, dans le même chapitre. Même chapitre, verset 13. Nous lisons ceci, « La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces, le pain du mystère est agréable, et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. On le comprend, il y a encore ici une image. Cette fois, ce n'est plus la sagesse de Dieu qui est personnifiée, mais c'est la folie. Vous voyez, la folie, elle nous est représentée là comme une femme bruyante, rétive, assise elle aussi sur les hauteurs. Ça ressemble à l'invitation de Dieu, mais c'est tellement différent dans le fond. Et elle adresse apparemment cette même invitation, que celui qui est stupide entre ici. Non pas que la folie s'adresse à des gens qui reconnaissent leur stupidité, mais précisément, elle s'adresse à des gens qui pensent être sages. Il y a tellement de gens qui pensent que sans Dieu, tout va bien. Il y a ce verset de l'Écriture qui dit même, se vantant d'être sages, sont devenus fous. Et imbu d'eux-mêmes, imbu de lui, l'homme bien pense qu'il va pouvoir s'en sortir. Mais la réalité, c'est que ce qui délivrait, là, au penchant de son mauvais cœur, et voyez là, la folie, pour ceux qui rejettent, qui se détournent de cette invitation de Dieu, nous conduit dans bien des chemins ténébreux. Lorsque le livre des Proverbes nous parle ici de ce langage que la folie tient, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Vous voyez, tant de choses attirent le cœur de l'homme dans des voies détournées. Le pain du mystère est agréable. Vous n'êtes pas choqué, vous, de voir que tant de gens se tournent vers les prétendues sciences occultes, le mystère qui attire le cœur des gens, des gens qui prennent part à des séances de spiritisme, parfois des parents même qui se laissent avoir par des publications, des revues qui les entraînent là dans un monde spirituel mauvais qui ruine leur vie, qui ont parfois ruiné celle de leur foyer tout entier, celle de leurs enfants. C'est terrible. Vous voyez, il vaut mieux entendre l'invitation de Dieu. Il vaut mieux entendre l'invitation de Dieu et y répondre. Parce que lui tient en réserve pour nous quelque chose de bon. Il est écrit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand il nous parle, c'est simple et c'est vrai. Allez, un troisième texte. On regarde une autre déclinaison de cette invitation que Dieu nous adresse par l'Évangile. Dans le livre de l'Apocalypse, je vous invite à vous rendre dans le chapitre 22, c'est le dernier chapitre de la Bible. Livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Il est écrit, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voilà, c'est là aussi sous un langage imagé que Dieu s'adresse à nous. Il nous appelle à recevoir de l'eau, l'eau de la vie, et il la propose à quiconque a soif. Vous savez que, particulièrement en Orient, la Bible est profondément attachée à la culture orientale, à travers la personne des auteurs dont le Saint-Esprit s'est servi pour la rédiger. Bien, l'eau, c'est vital. Pour nous, c'est évident, on tourne le robinet chaque matin pour passer son visage à l'eau, mais l'eau, on ne la trouve pas partout en Orient, et on en mesure toute la valeur pour irriguer, pour répandre la vie, parfois dans des endroits qui étaient autrefois desséchés. Et souvent dans la Bible, l'eau nous parle de cette bénédiction que Dieu répand dans notre cœur, dans notre vie, alors que nous avons vécu sans lui, dans la sécheresse. Quelqu'un dira, moi ça fait des années que je n'ai pas connu la joie. Mon cœur est comme un désert, il est desséché. Ça fait des années que je n'ai pas connu le plaisir de sourire véritablement, d'être satisfait. Dieu nous dit que celui qui a soif vienne. Il nous invite à recevoir cette eau de la vie. Dans l'évangile de Jean, on trouve le Christ qui parcourt là les chemins, il arrive à un endroit, c'est le puits de Sichar, et nous a dit qu'il a rencontré là une femme qui venait alors que c'était l'heure de midi, et il a là encore saisi l'occasion toute simple que lui donnait cette rencontre pour adresser une parole qui communiquait une grâce, et il va lui dire, donne-moi à boire. Et cette femme ne comprend pas. D'abord, les Juifs n'ont pas de relation avec le peuple dont elle est issue. Et puis, il est rare de voir un homme s'adresser à une femme ainsi, dans cette culture. Et voilà, elle est interloquée. Puis le Seigneur va aller plus loin. Il va lui dire, si tu savais qui est celui qui t'a demandé à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive. On sent que dans ces paroles, il y a plus qu'une allusion à l'eau qui se trouvait dans le puits, mais une réalité spirituelle, la même que celle qui apparaît depuis le début dans tous ces textes que nous avons lus. Et le Seigneur va lui dire, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'en vie éternelle. Voilà, le Seigneur fait ainsi comprendre à cette femme, et il nous fait comprendre que la bénédiction qu'il veut nous donner en pardonnant nos péchés, en nous ouvrant le ciel, en nous restaurant la communion de Dieu son Père, en nous donnant l'assurance et la réalité de la vie éternelle, eh bien c'est comme de l'eau qui désaltère le cœur. Et c'est plus que de l'eau qui est versée, c'est une source qui s'ouvre en nous, parce qu'elle a une origine divine, c'est Dieu qui vient faire sa demeure en nous, ça change tout ça. La vie est complètement transformée, Dieu vient, il vient faire sa demeure, et lorsque Dieu habite en nous, c'est comme une source qui jaillit, il ne manque jamais, ça irrigue là les recoins de notre cœur et de notre âme, c'est ce dont tout homme a besoin. Et on remarque cette précision, d'ailleurs elle se trouvait déjà dans le texte du prophète Ésaïe, explicitement souligné, elle se trouvait aussi en filigrane dans le texte des Proverbes, c'est gratuit. Celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Ésaïe disait que celui qui veut vienne sans rien payer. C'est tellement difficile de comprendre ça dans une société où tout se monnaie. Vous l'avez remarqué, tout se paye. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Je lisais quelque part que quelqu'un qui faisait le constat de l'évolution de la société disait « Nos parents ont connu l'ère du tout gratuit et on connaît l'ère du tout payant. » Mais la grâce de Dieu, elle a toujours été gratuite. Le salut de Dieu et le ciel ne sont pas à vendre. D'ailleurs, que pourrions-nous donner pour les acquérir, pour les acheter? Il y a un verset qui dit, parlant de toutes les religions qui veulent nous faire croire que à force d'argent ou d'or ou de souffrances méritoires, on pourrait gagner le ciel. Ce texte dit, le rachat de l'âme est cher, il n'aura jamais lieu. L'homme ne peut pas se racheter, il pourrait payer des fortunes, il pourrait réciter des millions de prières, se livrer à des millions de rites religieux. Non, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le donne. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est le juste jugement de Dieu qui s'attache au mal que l'homme peut pratiquer. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ pour celui qui le reconnaît, qui en reconnaît le besoin, qui entend l'invitation de Dieu et qui y répond. Et nous l'avons dit, la source, ce qui rend possible cet accomplissement, c'est le don de Jésus qui lui-même a tout payé pour nous. Il s'est offert lui-même sur la croix en portant le poids de nos fautes, de notre condamnation. Il l'a enseveli, voyez, dans sa mort sur la croix. Et par sa résurrection d'entre les morts, le Père nous prouve, certifie, authentifie l'efficace de son sacrifice, de telle sorte qu'il n'y a plus aujourd'hui aucune condamnation pour celui qui vient à Jésus-Christ. Il reçoit un plein pardon et un cœur transformé, une vie nouvelle. C'est l'eau de la vie qui jaillit jusqu'en vie éternelle. Que celui qui a soif vienne. Puis on lit un dernier texte, alors encore dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse, au chapitre 3, et au verset 20. Apocalypse, chapitre 3, et au verset 20. On a simplement ce verset, où il est écrit, voici, c'est le Seigneur qui parle, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Vous le remarquez, dans ce texte, comme dans tous les autres, il est question de nous rassasier de ce qui est bon, d'abreuver notre âme de ce qui est excellent. Dans les autres textes, d'une manière imagée, Dieu nous adresser la parole pour nous inviter à venir. C'est un appel à notre, à la foi. C'est un appel à notre volonté. Dieu ne veut pas nous imposer cette démarche de répondre à son appel. Mais ici, tout en respectant encore notre choix, Dieu fait un pas de plus. C'est le Seigneur qui nous dit je me tiens à la porte. Non seulement il nous appelle à venir, mais il fait cette démarche lui-même de se rendre jusqu'à notre porte. On comprend qu'il est question ici de la porte de notre cœur. Il nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Non seulement Dieu nous appelle, mais nous l'avons dit, il est venu, la personne de Jésus-Christ, qui a livré sa vie en sacrifice pour nous réconcilier réellement avec le Père et nous ouvrir le ciel. Mais par son Saint-Esprit, aujourd'hui encore, le Seigneur vient, il s'approche réellement de nous. Il s'approche aussi par les circonstances. Comment expliquer que nous ayons entendu parler de l'Évangile? Comment expliquer notre présence à cette réunion cet après-midi? C'est parce que Dieu s'approche. Comment expliquer que les circonstances de notre vie, que la providence divine nous ait conduit dans ce moment où bien nous pouvons répondre à son appel? C'est parce qu'il s'approche et il frappe à la porte de notre cœur. C'est-à-dire qu'il parle à notre conscience et sa voix, vous voyez, retentit, il se fait entendre, sans nous contraindre, mais l'appel de Dieu, c'est vrai qu'il est, il est pressant, c'est une tendre pression qu'il fait entendre à notre âme parce qu'il veut entrer, parce qu'il faut qu'il entre, parce que c'est tellement important qu'il le fasse, que notre vie ne reste pas cet après-midi dans les ténèbres et dans la nuit, sans espérance et dans une solitude, parfois une solitude coupable, vous voyez. Dieu nous dit, voilà, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, bien il nous parle de mets succulents. Mais c'est le plus important, c'est le plus précieux. Il nous parle de communion aussi. Le Seigneur dit, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Une vie, la vie de celui qui répond à l'appel de Dieu, celui qui devient chrétien, c'est un festin continuel avec le Seigneur. N'aimeriez-vous pas répondre à son appel? N'aimeriez-vous pas ouvrir la porte, le recevoir cet après-midi? C'est possible, je vous assure, parce que c'est le Seigneur qui nous le dit, c'est le Seigneur qui frappe à notre porte, il désire se manifester à nous pour nous apporter le meilleur des biens excellents. Je vous invite à quelques instants de prière, nous allons nous recueillir et ensemble, on s'approche de lui. Merci Seigneur pour ta bonté.